France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Lorsque j'ai quitté la Chine, j'étais dans un sale état, je ne dormais plus, je n'arrêtais pas de pleurer, je n'avais plus envie de vivre, je voulais me suicider.
Les cultures ne se limitent pas uniquement à son lieu de naissance. Les cultures, on sait très bien qu'elles se créent, elles se renouvellent, elles vivent aussi à travers les rencontres.
Nous ne devons pas, pour un bénéfice économique à court terme, mettre par terre des valeurs multiséculaires qui sont les valeurs humanistes que l'Europe devrait continuer à défendre.
Depuis son intégration définitive à la République populaire de Chine en 1949, la minorité turcophone et musulmane ouïghour de la province du Xinjiang subit la domination de l'ethnie majoritaire chinoise Han. Mais depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013, la politique d'assimilation a viré à la répression à grande échelle. Au nom de la défense de l'emploi et de la lutte contre le terrorisme islamiste, au moins 1 million de musulmans ont été internés dans des camps de rééducation. Torture, viol, stérilisation, apprentissage forcé du chinois, ces atteintes aux droits humains documentées par des chercheurs et des journalistes ont longtemps été passées sous silence. Depuis des années, le monde assiste à un crime contre l'humanité et depuis des années, la communauté internationale laisse faire, déplorait dans une tribune fin septembre, des intellectuels, acteurs et responsables politiques européens. Et ils réclamaient le lancement de commissions d'enquête par les organisations internationales. Les États-Unis ont décidé de bloquer des produits issus du travail forcé des Ouïghours et l'Union européenne veut maintenant envoyer des observateurs dans la région. Mais à chaque critique, Pékin dénonce des inventions ainsi que l'ingérence dans ses affaires internes. Les Ouïghours, qui représentaient 80% de la population de Xinjiang en 1949, n'en représentent plus que 45% aujourd'hui, à égalité avec les Han. Ouïghours de Chine, l'effacement programmé d'une minorité, c'est un reportage signé Alain Lefkovitch. Donc en reportage, nous accueillons cette semaine un politologue spécialiste de la Chine. Bonjour Thierry Kellner.
Bonjour.
Vous êtes chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous suivez attentivement la politique étrangère de la Chine et vous connaissez très bien les Ouïghours. Alors ensemble, nous allons commencer par écouter le reportage d'Alain Lefkovitch. Alain, peut-être un mot d'abord pour dire combien le Xinjiang, cette région où habitent les Ouïghours de Chine, est stratégique pour le pouvoir chinois.
C'est une région effectivement stratégique. Nous sommes donc aux portes de l'Asie centrale, frontalier, une région frontalière avec le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Afghanistan. Et c'est une région qui est un ancien carrefour des anciennes routes de la soie, mais qui est aussi aujourd'hui une pièce maîtresse dans les nouvelles routes de la soie mises en place par Xi Jinping. Et donc c'est une région où l'argent public coule à flot parce qu'il faut moderniser cette région qui va accueillir les infrastructures de ces nouvelles routes de la soie. Et pour le pouvoir chinois, il n'est pas question une seule seconde que cette région soit source d'instabilité, quelle qu'elle soit.
Donc vous avez recueilli des témoignages de Ouïghours qui ont pu s'enfuir de la région du Xinjiang. On les écoute.
Lorsque j'ai quitté la Chine, j'étais dans un sale état. Je ne dormais plus, je n'arrêtais pas de pleurer, je n'avais plus envie de vivre. Je voulais me suicider.
En tant que journaliste, j'étais cadre du Parti communiste, mais ce à quoi j'ai assisté là-bas vis-à-vis des Ouïghours, je ne peux pas l'accepter.
Alors, vous êtes parti dans quelles conditions? Vous êtes parti du Xinjiang?
En 2016, le gouvernement chinois a interdit la délivrance des passeports pour les Ouïghours, mais en tant que cadre de parti, j'avais beaucoup de relations et en payant une somme d'argent conséquente, j'ai pu obtenir un passeport au bout de 6 mois d'attente.
Quand vous dites je savais ce qui allait se passer, je savais comment ça allait terminer, c'est-à-dire que vous aviez peur, vous aussi, d'être arrêté un jour ou l'autre?
Oui, quand j'ai vu ce qui se passait fin 2016 et début 2017, j'ai eu peur et j'ai pris la décision de quitter le pays. Ma famille et ma femme sont restés là-bas dans le sud de la province. Ils sont tous soumis à la surveillance de la police chinoise. Je suis venu ici tout seul. Ma femme était commerçante à Urumqi. Un mois après ma sortie du pays, la police a saisi mon appartement et ma femme a dû retourner dans sa ville natale à Kashgar, à 1500 km au nord de Urumqi. Elle ne peut plus sortir de la ville et chaque semaine elle doit se rendre au commissariat pour raconter ce qui s'est passé pour elle pendant la semaine. En fait, on lui demande si elle m'a parlé au téléphone par WeChat. Ça fait 3 ans que ça dure. Je vous passe tous les détails de cette histoire, mais à la fin, ma femme a dû divorcer de moi et depuis, la police la laisse tranquille.
Comment ça s'est passé? Votre femme vous a téléphoné, elle vous a dit ça y est, c'est fini, on divorce?
Quand je raconte cette histoire, ça me rend très triste parce que ma femme qui était commerçante a tout perdu à cause de moi, son commerce, l'appartement. Quand j'ai quitté la Chine, je me suis rendu en Turquie. Elle m'appelait presque tous les jours et me disait qu'il fallait que je rentre au pays, sinon elle aurait de gros soucis. Même l'ambassade de Chine en Turquie m'appelait régulièrement, me menaçant de s'en prendre à ma femme et à ma famille. Et puis un jour, ma femme m'envoie un message par WeChat et elle m'annonce qu'elle ne peut pas continuer comme ça et qu'elle n'a pas le choix. Elle doit divorcer de moi.
Combien sont-ils aujourd'hui dans ces camps filmés par Mehmet? Des camps de concentration que les Chinois appellent camps de rééducation, où on y lave autant de cerveaux que possible. En 2018, les images satellites identifient pas moins de 200 camps. Ils seraient près de 1700 aujourd'hui, suffisamment grands pour y enfermer entre 1 et 3 millions de personnes. Gulbahar Jalilova, stérilisée de force et esclave sexuelle, a fini par sortir de l'un d'eux. Et il y a quelques mois, elle arrivait en France.
Je m'appelle Gulbahar Jalilova. Je suis citoyenne du Kazakhstan. Mes ancêtres et moi-même sommes tous nés au Kazakhstan.
Alors comment vous êtes-vous fait arrêter par les autorités chinoises? Vous étiez dans le Xinjiang à ce moment-là?
Comme je vous l'ai dit, je suis née au Kazakhstan. Je me rendais depuis 20 ans dans le Xinjiang pour mon commerce. J'ai ma propre boutique au Kazakhstan. J'allais à Urumqi acheter de la bijouterie et des vêtements pour les enfants. La dernière fois que je m'y suis rendue, c'était le 22 mai 2017. La police chinoise m'a arrêtée dans l'hôtel Chiyu d'Urumqi.
Alors, ils vous ont arrêté uniquement parce que vous étiez musulmane et ouïghour. Ils vous ont donné aucune autre explication?
Non, ils ne m'ont donné aucune autre explication. Ils m'ont arrêté uniquement parce que je suis ouïghour. Je n'ai pas la nationalité chinoise, ils m'ont arrêté en tant que citoyenne kazakh. Et quand ils m'ont emmené dans le camp, ils m'ont attribué un numéro de carte d'identité chinoise.
Donc ils vous arrêtent, et qu'est-ce qui se passe ensuite?
La police m'a accusé d'avoir donné un peu plus de 2000 euros à un Ouïghour. J'ai dit que ce n'était pas vrai, j'ai nié. J'ai refusé de signer la sorte de déposition dans laquelle je reconnaissais avoir commis un crime en donnant cet argent qu'ils m'ont présenté à la fin de l'interrogatoire. En 2017, les Chinois arrêtaient beaucoup de Ouïghours. Et comme j'étais Ouïghour, ils m'ont arrêté aussi en disant que j'avais aidé un terroriste en le finançant. Je suis restée dans un camp pendant 1 an, 3 mois et 10 jours. Le jour où je suis arrivée, ils m'ont entravée avec 5 kilos de chaîne aux pieds. On ne savait rien des raisons pour lesquelles on était là, on ne pouvait pas poser de questions. D'ailleurs, on ne pouvait pas parler du tout. Si on parlait en Ouïghour, on était enfermé dans une chambre noire. S'agissant de la nourriture, des conditions d'hygiène, on ne mangeait pas à notre faim, on n'avait rien pour faire notre toilette, pas d'eau pour nous laver, rien pour nous peigner. Dès les premiers mois, on a tout eu la gale dans les cheveux, ils nous ont rasé la tête. On a eu toutes sortes d'infections et de plaies sur le corps. J'ai encore des photos et des vidéos de ces plaies que j'avais. Certaines n'ont pas encore disparu d'ailleurs depuis ma sortie.
Nous étions une quarantaine dans une cellule sans fenêtre. Quand les policiers voulaient nous interroger, ils appelaient votre nom à travers un haut-parleur. Vous deviez vous présenter devant la porte de la cellule et là, ils vous mettaient un sac noir sur la tête et vous emmenaient. Chaque jour, ils en interrogeaient 2 ou 3. Beaucoup des jeunes filles qui ont été interrogées ne sont jamais revenues.
Une fois par semaine, on nous demandait de nous aligner devant la porte. On nous donnait deux médicaments avec un peu d'eau. On ne pouvait pas demander ce que c'était, on était obligé de les avaler. On a compris que c'était des médicaments chimiques qui nous faisaient arrêter nos règles. Toutes celles qui avaient leurs règles une fois par mois n'en avaient plus au bout de quelques temps. Et moi non plus, je n'ai plus mes règles depuis que j'ai pris ces médicaments.
Ulanı izdavatqan may izdisime hiç kim tapamaydı.
Ma famille savait tout juste que j'étais partie faire du commerce à Urumqi. Peu de temps après mon arrestation, les autorités chinoises ont envoyé une lettre à ma famille pour leur dire que j'avais été arrêtée pour avoir soutenu des terroristes. Tout le monde était sous le choc, a dit que c'était impossible, que je n'étais pas capable de faire ça. Ils ont contacté le consulat du Kazakhstan en Chine, qui a commencé à me rechercher. Mais comme les Chinois m'avaient attribué en arrivant au camp une fausse identité et un faux numéro de carte d'identité, le consul ne m'a pas retrouvé.
Je m'appelle Mukaddas Mejit, je suis chercheuse en ethnomusicologie et danseuse et cinéaste. Tout mon travail tourne autour de la culture et des arts ouïghours. Une culture, elle vit dans son territoire, là où elle a été créée, parce qu'elle a une fonction. Elle est créée pour maintenir un lien social avec les membres de cette culture, etc. Donc, c'est très difficile de la faire vivre en dehors de son environnement naturel, on va dire. Mais après, les cultures ne se limitent pas uniquement à son lieu de naissance. Mais les cultures, on sait très bien que elles se créent, elles se renouvellent, elles vivent aussi à travers les rencontres. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai essayé d'aller à la rencontre des autres personnes qui viennent d'autres cultures ou avec les artistes français aussi, justement pour partager ma culture, pour le faire rencontrer à d'autres personnes et aussi pour la faire vivre en dehors de son territoire. La culture ouïghour a été très, très bien accueillie, en tout cas en France, en Europe, là où on l'a présentée avec les artistes, parce que c'est une culture très riche, très complexe et très intrigante. Je pense que c'est ça qui fait vivre la culture aussi. La Chine, depuis 3 ans, dit qu'ils sont en train de se battre contre le terrorisme. En fait, leur ennemi premier, c'est les intellectuels, ceux qui peuvent vraiment continuer à faire vivre la culture ouïghour, l'identité ouïghour. Donc du coup, ils sont les premiers concernés dans les cahiers de charges du gouvernement chinois, parce que si on veut faire taire un peuple, si on veut effacer une culture, c'est les intellectuels, les artistes qu'il faut viser. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, il a eu des ambitions de recréer une route commerciale qu'il appelle la nouvelle route de la soie, qui va traverser la Chine pour amener la marchandise chinoise, et puis qui va traverser toute l'Asie centrale, et puis pour arriver finalement jusqu'en Europe pour exporter toute la marchandise chinoise. Ce qui a gêné le gouvernement chinois dans sa politique commerciale gigantesque, c'est que cette région ne soit pas complètement sinisée comme le reste de la Chine. Donc, ils ont voulu complètement neutraliser cette région, sinisée complètement, pour qu'il n'y ait aucune revendication de cette terre, de cette culture, même dans le développement financier, économique de cette région. Ils voulaient avoir vraiment la mainmise complète à 100% de cette région-là.
Je m'appelle Gulmar, j'ai 26 ans. Je suis ouïghour, voilà, d'origine chinoise.
12 septembre 2018. Pour la première fois, je rencontrais cette jeune fille inquiète, aux traits tirés et fatigués, après 2 longues années d'angoisse. Car si sa vie pouvait s'apparenter à un long fleuve tranquille, tout basculait à l'aube de l'année 2016.
Je suis arrivée en 2006 à Paris par un regroupement familial. Donc mon père était arrivé en 2002 ici. Et ma mère, ma petite sœur et moi, on l'a rejoint en 2006. Mon père, il voulait surtout une meilleure éducation pour moi et ma sœur. Donc, il avait quelques problèmes en Chine avec sa hiérarchie. Et surtout, lui, il a toujours été attiré par les pays occidentaux, par la démocratie. Donc, il avait une âme de démocrate en lui. Donc, il ne voulait plus qu'on vive dans un pays qui était fermé d'esprit. Ma mère, elle avait un titre de séjour, quant à elle, de 10 ans. Donc, elle pouvait retourner en Chine. Elle est retournée pour la première fois en 2009, pile pendant la période de la révolution du 5 juillet.
Alors, juste il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ?
En novembre 2016, elle a été appelée par son ex-patron. Elle était encore employée en fait en Chine, donc elle était en France en demandant un congé à long terme. Donc son ex-patron l'a appelée en disant qu'elle n'avait plus besoin de demander un congé. Sa demande de retraite anticipée a été acceptée, donc il faut qu'elle vienne signer des papiers. Elle est partie là-bas. Le lendemain de son arrivée dans la ville de Karamay, elle est partie voir son ex-patron. Et quand elle est arrivée au bureau, il y avait déjà les gendarmes. Ils l'ont arrêtée sur le champ, ils l'ont mise en garde à vue 24 heures. Ils ont confisqué son passeport. Quand elle a été relâchée du poste de commissariat, elle était partie encore une fois avec son téléphone français. Elle m'a appelée, elle pleurait, elle m'engueulait en disant « Mais pourquoi t'as été dans des manifestations ouïghours ? Je te disais que de ne pas y aller, pourquoi t'as été là-bas ? Ils m'ont montré une photo de toi et ta petite sœur, t'étais encore petite. »
C'est quoi ces photos qu'on lui montre ?
C'est une photo qui date de 2009 peut-être. Il y a eu une grande manifestation à Paris pour protester contre les événements du 5 juillet. Je connaissais des gens qui allaient, c'était très bien communiqué dans la communauté ouïghour de Paris. Moi, à l'époque, je devais avoir 17 ans et ma sœur 11 ans, donc on était tout petits. Et je me souviens du journaliste qui est venu me tendre un bouquet de fleurs et un tout petit drapeau turquoise des Ouïghours à ma petite sœur. Et elle nous a pris en photo, donc nous, on a posé pour la photo parce qu'on était assez intimidés. On ne connaissait pas, en fait... tous les enjeux qu'il y avait, et puis on pensait pas que cette photo allait circuler. On savait même pas qui c'était, en fait, cette dame française. On pensait que c'était un touriste. Et voilà, donc c'était cette photo-là qu'ils ont montrée.
9 octobre 2020, je retrouvais Gulmar. Sa mère était saine et sauve.
Pour faire revenir ma mère, il y a eu 3 choses, selon moi. Il y a eu d'abord tout ce combat silencieux avant que je commence la démarche médiatique auprès du Quai d'Orsay. Ensuite, moi, j'ai lancé une pétition sur Internet qui a eu plus de 400 000 signatures. Donc ça m'a aussi aidée. Et je me suis rabattue sur tous les médias, les journalistes que j'ai pu rencontrer pour vraiment donner une force et une voix supplémentaire. Donc... à mon combat, je remercierai jamais assez en fait aussi bien les gens des médias qui m'ont aidé que le Quai d'Orsay. Ils pouvaient pas forcément me communiquer tout ce qui était en train de se faire, mais ils me rassuraient et effectivement quand ça a avancé et que les résultats étaient là, bah je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, ils n'avaient pas chômé. Donc voilà, c'est grâce à ces 3 choses-là que j'ai pu faire revenir ma mère.
Moi c'est Beka Esbenga, je suis un jeune artiste du 92, j'ai 20 ans.
Comment vous avez découvert les Ouïghours et comment vous avez eu l'idée d'écrire cette chanson ?
Bah, comme la plupart des personnes, c'était sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal de personnes qui partageaient, par contre les médias ils en parlent pas énormément. Donc moi je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de regarder de quoi il s'agissait vraiment. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, pourquoi pas en parler en faisant une chanson pour décrire ce qui se passe là-bas.
Samedi 25 juillet 2020, place André Tardieu dans le 7e arrondissement de Paris. Plusieurs centaines de personnes sont réunies à proximité de l'ambassade de Chine pour protester contre le sort des Ouïghours du Xinjiang. Beka Esbenga y fait forte impression.
Je sais que c'est un peuple qui subit des tortures et qui sont dans des camps de concentration... Les femmes, elles sont stérilisées, ils mangent pas, les enfants, ils sont séparés de leurs parents, etc. Ça m'a beaucoup touché. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question, justement. Ils me demandaient si j'avais des origines ouïghours. J'ai dit que non. Et justement, là, ça leur a fait plus plaisir que ce soit une personne d'une autre communauté, d'une autre origine, qui soutient un autre peuple. Moi, je suis de nationalité française et d'origine algérienne. Alors, le texte, je l'ai écrit avant la manifestation. J'ai lu plusieurs articles, j'ai fait pas mal de recherches, donc je me suis inspiré des paroles qu'il y avait. Après, j'ai essayé d'exprimer mes sentiments directement dans la musique, j'ai exprimé ce que je ressentais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait la chanson.
J'ai répondu, le temps c'est court. J'avoue, ça me fait mal au cœur quand je vois ce que subissent les Ouïghours. Sans aucune pitié, persécutés et torturés. Dans des camps de concentration où ils sont privés de boire et de manger. Sur ça, le monde se tait car ils sont pas touchés. J'arrive pas à réaliser.
Dilno Rehan, sociologue, enseignante à l'INALCO et présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe.
La région Ouïghour, le pays Ouïghour, elle est depuis sa colonisation en 1949, avec la création de la Chine communiste, il y a eu toujours la politique de sinisation de cette région. Cependant, le processus a démarré petit à petit. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Chine, de l'époque, dans les années 50, n'avait pas cette position mondiale qu'aujourd'hui. Donc, surtout dans la région Ouïghour, ils étaient seulement 4% contre 80% de Ouïghours. Donc, dans cette situation, ils ne pouvaient pas prendre des mesures radicales, assimilationnistes, tout de suite. Donc, cela a pris du temps. Cependant, ça a pris d'abord par des mesures comme, par exemple, changeant la démographie de la région. Les Chinois, ils étaient 4% en 1949. En 2010, ils sont devenus 45% environ. Et que les Ouïghours, de 80%, ils sont tombés à environ 45-47%. Et après les nouveaux rapports qui est publié depuis l'année dernière, nous savons aussi que le taux de natalité ouïghour a baissé entre 2015 et 2018, notamment dans le sud de la région, moins 84%. Et on apprend depuis cette année aussi, avec le nouveau rapport, la stérilisation massive des femmes ouïghours pour en freiner totalement l'existence de cette population. Tous ces processus, c'est en réalité, c'est une planification, c'est un processus de longue date. Simplement, auparavant, d'une part, la Chine n'avait pas le pouvoir. D'autre part, sur la scène internationale, la Chine ne pouvait pas oser revendiquer quoi que ce soit. Comme par hasard, depuis Xi Jinping, la Chine, elle est en conflit un peu partout, en revendiquant des territoires, des frontières, ou encore la mer de Chine, comme le conflit de la mer de Chine.
Alors dites-moi, vous le disiez, le 1er octobre, c'est la fête nationale en Chine, date à laquelle, en 1949, Mao proclame la naissance de la République populaire de Chine. Qu'est-ce qui se passe pour les Ouïghours à ce moment-là ?
Effectivement, c'est la fête nationale de la Chine. C'est aussi la journée de début de la colonisation chinoise communiste. Puisqu'en fait, il faut le dire, avant cette date-là, le pays Ouïghour était une république indépendante. République du Turkestan oriental, reconnue seulement par l'URSS à l'époque. Cependant, cette république a quand même régné, mis en place un État indépendant pendant plusieurs années. Les Ouïghours de la diaspora se battent aujourd'hui pour restaurer cette République du Turkestan oriental qui était une république laïque et d'une État-nation moderne.
Alors, il y avait sous Jiang Zemin l'harmonie sociale. Aujourd'hui, c'est pour Xi Jinping le rêve chinois. Et dans le même temps, au Xinjiang, chez les Ouïghours, il impose une politique de famille unie. Qu'est-ce que c'est ?
Ça fait partie, en fait, cette politique que la Chine a appelée s'unir comme une famille. Ça fait partie des nombreuses campagnes que la Chine mène dans la région Ouïghour pour siniser les Ouïghours, pour que les Ouïghours abandonnent leur culture et leur identité culturelle et religieuse et ethnique. Et s'unir comme une famille, cette politique, elle a déjà démarré depuis 2016. C'est environ un million de fonctionnaires. Certains sont forcés, d'autres sont volontaires, avec une mission sacrée de civiliser les Ouïghours. Ils sont envoyés dans des familles Ouïghours. En 2016, ils ne restaient pas dormir, mais à partir de 2017, ils ont la mission de dormir aussi. Ils partageaient le même lit, et parfois en fait, partageaient le même lit qu'avec les femmes ouïghours ou les femmes kazakhs, et qu'en cas de refus, ça peut être une raison de les envoyer en camp de concentration. Dans cette situation-là, il y a nombreux cas de viol, agressions sexuelles, il y a certaines filles, on entend aussi certaines filles, elles se sont suicidées après viol, et ce type de. Les femmes. Comme partout, dans n'importe quelle région du monde qui est en conflit politique, et les femmes, elles sont les premières victimes. Le corps des femmes utilisé comme un outil, comme une arme de humiliation collective par les agresseurs, par les colonialistes.
Alors, juste une petite précision, pour bien préciser qu'il s'agit des Ouïghours et pas des musulmans, parce que les musulmans sont protégés par le Parti communiste. Il y a le bureau des nationalités et des religions. Il n'y a pas que les Ouïghours qui sont musulmans en Chine, il y a les Hui, qui sont des Han convertis à l'islam. Alors, eux, ils n'ont pas de problème.
Ce qui se passe pour les Ouïghours ne sont pas parce qu'ils sont musulmans. La première raison, c'est leur ethnicité qui dérange, leur différence culturelle qui dérange. Et que, comme vous le dites, les Ouïghours ne sont pas les seuls musulmans en Chine. D'ailleurs, les Hui, ils étaient épargnés jusqu'en 2019. Mais à partir de 2019, Xi Jinping a décidé d'attaquer l'ensemble des populations de confessions différentes. C'est-à-dire les Hui, les chrétiens, les Chinois chrétiens. On parle des rares juifs chinois aussi. Et puis également des bouddhistes, puisqu'enfin la Chine a détruit d'abord des mosquées, des églises. On a entendu l'année dernière, comme vous voyez, il y a des reportages qui ont été faits concernant en fait la Chine a changé le contenu de du Coran, mais aussi de la Bible. Donc en fait l'attaque est sur tous les fronts contre toutes les religions. Tout cela pour unifier autour d'une seule identité, qui est l'identité chinoise Han, sans religion. Si, en Chine, la religion existe officielle, c'est le communisme et l'argent, bien sûr.
Moi, je suis Aurélien Taché, je suis député dans le Val d'Oise et j'étais membre de la majorité que j'ai quittée et j'ai fondé avec d'autres un nouveau mouvement politique qui s'appelle Nous Demain.
Alors vous êtes également membre de ce collectif de 55 députés qui se sont engagés pour la cause ouïghour. Alors comment vous êtes retrouvé dans ce collectif et comment vous êtes-vous mobilisé sur cette question ?
Alors sur la question du collectif, eh bien effectivement c'est après avoir rencontré Dilnour, qui est une jeune femme très engagée sur la cause des Ouïghours en France, qui préside l'Institut Ouïghour. Parce qu'effectivement, il y a quelques mois maintenant, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en la voyant, elle, et un certain nombre d'activistes, finalement alertés très fortement sur ce qui se passait actuellement dans le Turkestan oriental et sur ce qui passait donc en Chine pour les Ouïghours, et a constaté que effectivement il y avait de l'internement de masse, des déportations, des stérilisations forcées, des assassinats ciblés, et qu'il y avait en réalité ce qu'on peut appeler un génocide qui était en train de se réaliser, alors pas tout à fait sous nos yeux parce que c'est Turkestan oriental est un petit peu loin de la France, mais en tout cas à l'autre bout du monde, et que ça ne suscitait malheureusement que très peu de réactions. À mon avis, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer cela. La première d'entre elles étant qu'il s'agit donc d'un génocide qui est perpétué par l'État chinois, principale puissance commerciale, que beaucoup de pays occidentaux ou musulmans finalement, car les Ouïghours sont musulmans et persécutés essentiellement pour cette raison, ne veulent pas gripper leurs relations économiques avec la Chine et donc sont prêts à fermer les yeux sur ces massacres, sur ce qui est en train de devenir un génocide. Je pense aussi que finalement le fait que la minorité Ouïghour soit musulmane joue dans le contexte global, parce que il y a quand même une difficulté à comprendre, à reconnaître que si il peut y avoir un terrorisme fondamentaliste islamique qui tue en Orient et en Occident et en Afrique et ailleurs, vous avez, quand vous passez finalement en Asie, plutôt des musulmans qui sont persécutés, qui sont massacrés. Je pense aux Rohingyas en Birmanie, je pense à la minorité musulmane en Inde, je pense aux Ouïghours, et que ça vient bousculer un schéma de pensée dans lequel certains en Occident se sont installés, selon lequel le musulman est forcément le méchant. Et donc, on a vraiment, sur le plan symbolique, besoin de cette reconnaissance par l'Assemblée et la représentation nationale, et puis ensuite pour organiser un certain nombre d'actions.
Alors vous parlez de génocide, ni Jean-Yves Le Drian, ni Emmanuel Macron n'ont utilisé ce mot, des réactions plutôt timides. Jean-Yves Le Drian ne demande que l'ouverture du Xinjiang à une commission d'experts indépendants, sachant que la Chine ne le fera jamais. Alors c'est demandé pour rien, pour savoir, parce qu'on sait que
Enfin, Jean-Yves Le Drian n'est pas tombé de l'armoire. Il sait très bien qu'en demandant l'ouverture des frontières de cette province située à l'extrême ouest de la Chine, c'est peine perdue. Alors pourquoi le demander ?
Effectivement, vous avez, je crois, quelque chose qui est plus de l'ordre du symbole que d'une véritable volonté, enfin d'une véritable action, en tout cas sur cet aspect-là. Le courrier d'Emmanuel Macron, dans lequel il me répond, avec les 30 parlementaires, pareil, rappelle les différentes interpellations de la France dans les différentes instances de l'ONU, parle d'une situation inacceptable, c'est le moins qu'on puisse dire, l'exhorter dans ce courrier, à entamer des démarches devant la justice pénale internationale pour que cette qualification finalement de crime contre l'humanité puisse être retenue. On sait parfaitement que ce type de démarche susciterait là pour le coup une réaction dans l'opinion publique mondiale, que la Chine y serait évidemment sensible du fait de ses projets d'expansion économique et politique. Voilà le type de choses qui serait plus efficace. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Qu'attendons-nous, nous, la France, pays des droits de l'homme? Même si je crois que bientôt plus personne n'emploiera cette expression, je pense que nous allons vers les dernières heures où elle peut encore un petit peu faire floresse. Eh bien, c'est une vraie question et d'une manière générale, je pense même que la réaction des Européens n'est pas à la hauteur non plus sur ce sujet. Et nous ne devons pas, pour un bénéfice économique à court terme, mettre par terre des valeurs multiséculaires qui sont les valeurs humanistes que l'Europe devrait continuer à défendre. Moi, j'avais un sujet très concret en tant qu'élu du Val-d'Oise avec cette implantation de Huawei. Vous voyez que la mobilisation paie parce que, encore une fois, le partenariat a fini par être annulé et l'entreprise maintenant essaie de s'implanter du côté de Strasbourg où j'ai vu que des élus écologistes essayaient aussi de se mobiliser pour que ça ne se fasse pas. Donc, vous voyez que finalement, on peut y arriver. Je ne sais pas si on peut boycotter de manière totale et absolue. Là, moi, ce qui me choquait le plus dans l'affaire à laquelle je fais référence, c'est que de l'argent public des contribuables du Val d'Oise allait finalement être mobilisé pour soutenir l'implantation de Huawei. Donc déjà, avant même de boycotter leurs produits, évitons que l'argent de nos impôts serve à financer cette entreprise qui est discutable sur bien des sujets, mais notamment sur la persécution des Ouïghours, parce que moi, c'est vraiment ça qui me préoccupe. Et pour ce qui est du boycott, j'entends beaucoup parler de boycott ces derniers jours, et notamment enfin, de la part de certaines minorités radicales qui, dans certains pays musulmans, voudraient boycotter la France en raison du contexte qu'on connaît autour des attentats et des caricatures de Charlie Hebdo. Je pense, comme mes amis Ouïghours, que s'ils veulent vraiment se soucier du sort des musulmans persécutés, c'est plutôt la Chine qu'il faudrait boycotter et dont les entreprises dont on parle, parce que là-bas, un génocide est en cours sur ces populations musulmanes.
Alors Bertie, vous pouvez me dire où on est ?
On est devant chez Uniqlo à Châtelet. Du coup, je vais chercher quelques personnes qui viennent de acheter les produits d'Uniqlo. Parce que en Chine, il y a l'esclavage et le travail forcé. Du coup, je voulais savoir la réaction et le sentiment des peuples. Qu'est-ce qu'ils pensent sur ce sujet ? Est-ce qu'ils soutiennent le régime dictature ou droit de l'homme ? Je fais ça souvent, ouais, beaucoup souvent. J'aime bien discuter avec les vendeurs, tout ça, au sujet de l'esclavage, du droit de l'homme. Parce que j'ai boycotté la fabrication chinoise depuis le moment.
Uniqlo qui a été épinglé par cette ONG australienne qui dénonce 83 entreprises internationales, en tout cas les sous-traitants de ces entreprises qui utiliseraient le travail forcé des Ouïghours pour la fabrication de ces produits.
Moi, je suis juste en attente de quelqu'un qui vient d'acheter le produit.
Excusez-moi, je peux vous déranger deux petites secondes ?
Oui.
Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Moi, en fait, je suis en train de boycotter la fabrication chinoise parce que là, actuellement, les Ouïghours sont dans les camps de concentration et le gouvernement chinois utilise les Ouïghours comme esclaves. Peut-être vous aviez acheté quelques produits fabriqués en Chine. Si c'était bien...
Et un t-shirt, oui.
Si c'était fabriqué en Chine, c'est-à-dire que vous soutenez le régime dictature. Du coup, je veux savoir si vous voulez bien soutenir le droit de l'homme ou l'esclavage qui se passe en Chine.
Alors, waouh, déjà c'est énorme comme question. C'est même pas une question d'ailleurs. C'est un constat qui est très triste. En effet, oui, j'achète mes chaussettes et mes t-shirts chez Uniqlo. Je suis complètement préoccupée, concernée aussi par ces questions de domination et de je sais pas. Vous voyez, je suis assez émue en fait. En tout cas, je pense que c'est un système qui nous piège aussi. Alors, je vais pas me plaindre. En effet, je suis pas du tout dans un camp en train de fabriquer les chaussettes que je vais mettre sur mes pieds demain matin. Mais en effet, c'est très complexe. Non, je ne soutiens pas tout ça. Mais par le fait de devoir acheter mes chaussettes chez Uniqlo, dans un quartier dans lequel je peux nulle part ailleurs acheter mes chaussettes, évidemment, je soutiens ça, oui. Je suis juste hyper triste de constater ça. Et j'achète mes chaussettes chez Uniqlo.
Du coup, vous continuerez à acheter chez Uniqlo vos chaussettes et votre t-shirt ?
Peut-être pas, non. Par contre, je vais user mes chaussettes.
Ma sœur, elle a vu pas mal de violence dans le camp. Et ça se fait un problème de psychologique pour elle, en fait.
C'est quoi cette violence qu'elle a vue ?
Peut-être elle a vu quelqu'un qui est mort à cause de la violence. Et quelqu'un qui est disparu, qui était en forme la veille, par exemple.
Alors, on raconte qu'à partir de 2017, on parle de camps de concentration où on fait des tests sanguins, des tests sur l'ADN, et qu'il y aurait beaucoup de Ouïghours qui seraient morts parce qu'on aurait volé leurs organes.
Enlèvement des organes des Ouïghours, ça c'est une histoire classique depuis longtemps, qui sont contrôlés par l'État pour avoir plus d'organes halal pour les pays musulmans. Et en fait, le fournisseur, c'est le gouvernement chinois et les acheteurs, c'est les pays musulmans et surtout les pays de Moyen-Orient qui sont très riches, qui ont besoin des organes halal. Ça, c'est vraiment bizarre de dire ça. J'ai jamais entendu parler d'organes halal. Parce que les musulmans ne veulent pas utiliser les organes des gens qui ne sont pas musulmans. Par contre, ils ont accepté l'enlèvement des organes des Ouïghours par l'État chinois. Du coup, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est cette valeur d'islam. On paye pour les Chinois aussi, on paye pour les musulmans aussi. En plus, quand on parle des organes, c'est plutôt les reins que je voulais parler en fait. Vu que dans le réserve, on a assez beaucoup des reins, donc on peut utiliser notre rein comme on veut. Et en plus, ça existe depuis longtemps. Mais par contre, à partir de 2017, ça c'est plus fréquent et plus ouvert. Et dans le monde, tout le monde sait que les organes... qui vient de chez Ouïghour, mais personne vient contrôler ce problème très très grave.
Voilà. On m'a dit le temps c'est de l'argent, j'ai répondu le temps c'est court. J'avoue ça me fait mal au cœur quand je vois ce que subissent les Ouïghours. Sans aucune pitié, persécutés et torturés dans des camps de concentration, ils sont privés de boire et de manger. Sur ça le monde se tait car ils sont pas touchés.
Ouïghours de Chine, l'effacement programmé d'une minorité. Un reportage d'Alain Levkovitch avec Jean-François Braun à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Thierry Kellner de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des relations extérieures de la Chine. Alors Thierry Kellner, en quoi les Ouïghours gênent-ils vraiment le pouvoir chinois ?
Alors écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut mettre en avant pour expliquer un petit peu donc la situation actuelle. On a évoqué effectivement donc la localisation stratégique de la région donc où vivent les Ouïghours, donc cette province du Xinjiang qui est une province riche en elle-même, donc qui contient beaucoup de ressources naturelles qui sont utiles évidemment au pouvoir chinois. C'est aussi une zone de transit déjà pour des choses qui viennent de l'Asie centrale, notamment on peut penser aux approvisionnements donc énergétiques, le pétrole, le gaz, etc., qui viennent du Kazakhstan, du Turkménistan. Et c'est rajouté à ça la question effectivement donc des routes de la soie, dont la branche terrestre traverse cette zone. Donc il y a cette question de localisation stratégique, hein. Le pouvoir chinois effectivement a besoin d'une région qui soit le plus pacifique possible. Or c'est une région qui borde des zones qui sont instables, hein. Regardez, vous avez l'Afghanistan à côté, vous avez les zones tribales du Pakistan qui ne sont pas loin. Donc il y avait cette crainte évidemment du pouvoir chinois qu'il y ait une sorte de débordement, donc d'un radicalisme islamique dans le Xinjiang. Donc tout ça évidemment ça explique la politique qui a été menée, mais au-delà de ça, il y a aussi des questions peut-être un peu plus fondamentales, c'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que sous Xi Jinping, la Chine est en train de devenir de plus en plus intolérante finalement à ce qui ne serait pas dans la vision des Chinois eux-mêmes, donc chinois en fait. Et les Ouïghours n'entrent pas vraiment dans cette catégorie. Ils sont turcophones, ils sont musulmans, ils ne parlent pas très bien ou ils ne parlaient pas très bien donc la langue chinoise. On a l'impression que c'est une minorité ethnique qui refusait donc de s'assimiler, hein. Donc ça c'est aux yeux de Pékin. Donc on a finalement profité d'un contexte international qui était favorable pour essayer finalement de régler cette question ouïghour et de effectivement assimiler le plus possible cette minorité récalcitrante en fait, hein.
Alors vous dites que les Ouïghours sont musulmans, mais les Hui, qui sont des Han convertis à l'islam, eux, n'ont pas subi les mêmes discriminations que les Ouïghours, hein. Ils n'ont pas été envoyés en camp.
Alors, il y a là plusieurs éléments donc qu'il faut bien mettre en avant. D'abord, c'est vrai que les Hui ont eu un traitement spécifique. La Chine les a longtemps utilisés comme une sorte de minorité modèle. Chaque fois qu'il y avait des délégations de pays musulmans, etc., on mettait en avant les Hui. Alors, les Hui sont moins problématiques que les Ouïghours parce qu'ils sont très très dispersés sur le territoire chinois, tandis que les Ouïghours habitent justement de cette région donc du Xinjiang, qui est une région frontalière en plus. Donc ça c'est un vrai problème stratégique. Les Hui sont beaucoup plus dispersés, donc ils ne posent pas le même type de problème, mais on remarque quand même que depuis 2018-2019, le pouvoir devient beaucoup plus intolérant à l'égard des Hui également, puisqu'on sait qu'il y a eu toute une campagne, par exemple, de destruction donc de minarets de mosquées qui étaient jugés non suffisamment chinois, entre guillemets, que les restaurants Hui qui affichaient des pancartes annonçant que le restaurant était halal, etc., donc écrit en arabe, et bien tout ça a dû être enlevé, hein. Donc il y a quand même une grosse pression qui est mise donc sur la religion musulmane, et donc on a l'impression aujourd'hui que les Hui commencent à subir aussi le même genre de politique assimilationniste, alors peut-être pas encore au degré que les Ouïghours connaissent, mais que eux aussi en sont victimes. Un autre exemple, alors là, d'une autre ethnie qui n'est pas musulmane mais qui subit et qui commence à subir exactement le même genre de répression que les Ouïghours, ce sont les Tibétains en fait. Mmh. On a aujourd'hui aussi des camps, hein, ce que les Chinois appellent donc des vocational centers, hein, donc des centres d'apprentissage qui aujourd'hui sont ouverts aussi pour les Tibétains. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a cette espèce de lame de fond assimilationniste qui finalement commence à toucher l'ensemble des minorités ethniques en Chine en fait.
Et quand le pouvoir chinois prend prétexte de la lutte contre le terrorisme pour réprimer les Ouïghours, c'est totalement surdimensionné. Alors, il y a bien des Ouïghours islamistes.
Alors, on a eu effectivement des informations donc selon lesquelles, effectivement, on trouvait des combattants ouïghours en Syrie ou en Irak, certains proches d'Al-Qaïda, d'autres plutôt dans l'État islamique. Mais alors quand vous regardez les chiffres, c'est vraiment très peu de personnes. Ce sont des parcours individuels et au nom donc de ces personnes que l'on a pu identifier, finalement, c'est toute la population ouïghour qui a été prise, je dirais, comme cible de cette campagne de entre guillemets déradicalisation, qui est en fait une campagne d'assimilation, hein, puisque on voit en fait que ce qui est mis en place, c'est vraiment de l'assimilation forcée avec des restrictions très sévères, par exemple sur la langue, hein, sur la langue ouïghour, sur la culture, sur la pratique de la religion, une sorte de conversion forcée, je dirais, aux habitudes alimentaires chinoises, aux fêtes traditionnelles chinoises. Donc toute cette élite ouïghour qui est mise en prison ou qui disparaît, donc là on s'attaque vraiment aux leaders culturels, on détruit systématiquement aussi les lieux culturels, donc ouïghours, les mosquées, les sites qui étaient importants pour les pèlerinages, même les cimetières, etc. Les enfants sont séparés des parents, donc là vraiment on est dans une politique assimilationniste vraiment complète au nom effectivement de cette déradicalisation. Et alors on vous montre des images de gens qui étudient, qui apprennent un métier et des choses comme ça, mais ce n'est qu'une partie de la réalité sur place, en fait, parce qu'il y a différents, comment dire, il y a différents degrés de camp, en fait. Et donc, évidemment, ce que les Chinois montrent, c'est toujours le degré le plus faible qui présente comme étant une école, sauf que c'est une école, je veux dire, dont on ne sort pas ou dont on ne sort très peu, et c'est une école obligatoire, en plus, hein. Donc, voilà.
Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à parler de génocide des Ouïghours ?
Alors, c'est un terme, évidemment, qui est extrêmement connoté. Il est très chargé, donc, au point de vue sémantique. Alors, de plus en plus, effectivement, donc, de chercheurs et même de politiciens, puisqu'on a des exemples maintenant. Par exemple, le Parlement du Canada, si ma mémoire est bonne, vient de passer une résolution dans laquelle le terme génocide est utilisé. Donc, on est en tout cas en face d'une sorte d'ethnocide culturel, ça c'est évident. La Chine viole donc toute une série de conventions internationales qu'elle avait quand même signées, donc notamment la Convention des Nations Unies donc sur le génocide dans son article, enfin dans ses articles 2 A et E, donc tout ce qui est effacement donc de la culture, etc. Donc là évidemment la Chine contrevient à ça. Les emprisonnements forcés, le passage dans des camps, des gens qui disparaissent. Alors on a tous vu donc ces images aussi donc de jeunes hommes ouïghours qui étaient chargés dans des trains pour des destinations qui sont inconnues. Probablement que c'est pour aller travailler dans des usines sous forme de travail forcé, etc. Donc effectivement, on s'approche quand même vraiment très très fort de ce qui ressemble à un génocide, en fait. En tout cas, l'ethnocide culturel est tout à fait là. Alors est-ce que vraiment on est dans une forme de génocide, je dirais, par étapes, hein, avec cette stérilisation, par exemple, où finalement, petit à petit, on a l'impression que cette minorité va disparaître. Alors effectivement, c'est une très grave question, et la communauté internationale reste relativement silencieuse. Alors, c'est pas tout à fait vrai du côté occidental, mais par contre, c'est très vrai dans les pays musulmans et dans les pays du Sud, où là...
Alors justement, oui, pourquoi est-ce que les pays arabes ne prennent pas la défense des Ouïghours ?
Écoutez, je pense qu'il y a toute une série de facteurs qui entrent en jeu. Alors effectivement, on a parlé, je pense, des intérêts économiques et financiers, hein, donc qui sont liés aux routes de la soie. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui relèvent de la nature des régimes politiques en place. Ce sont tous des régimes autoritaires. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'admiration, finalement, pour la politique chinoise qui prend des mesures fortes pour se débarrasser du terrorisme, parce que c'est comme ça que la Chine le présente? Est-ce que ces États considèrent que, finalement, la Chine, c'est un partenaire indispensable parce que, on peut s'appuyer sur la Chine si on a des problèmes avec les Occidentaux? Donc ça, c'est des choses que l'on peut voir, par exemple, dans la politique étrangère de Recep Tayyip Erdogan, hein, qui, en 2009, traitait la politique chinoise donc de génocide, et puis qui, aujourd'hui, alors que la situation s'est complètement aggravée, est vraiment silencieux, mais comme par hasard, il est en difficulté dans ses relations avec les Occidentaux. Donc je pense que c'est un petit peu tous ces facteurs-là qui expliquent qu'on est très silencieux sur ce que fait Pékin. Puis Pékin se présente aussi comme une sorte de leader, finalement, de ces États du Sud global, donc qui comme eux auraient été victimes, vous savez, de l'impérialisme occidental, du colonialisme, etc. Et donc présente le discours occidental, donc qui critique cette politique comme étant des formes de propagande ou de fake news, en fait, sur la Chine, une forme de discours qui sera un discours anti-chinois. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, je pense que vous comprenez pourquoi un certain nombre d'États, et notamment d'États musulmans, sont assez silencieux. En plus, faut pas oublier que les Ouïghours, d'un point de vue ethnique, en fait, ils sont turcs. Alors pour les pays arabes, je pense que c'est un facteur qui ne leur parle pas, en fait. Hein.
Donc ceux qui se montrent aujourd'hui les plus fermes vis-à-vis de la Chine, ce sont les États-Unis qui ont décidé de sanctions. Alors, est-ce que c'est réellement un soutien aux Ouïghours, ou est-ce qu'ils sont instrumentalisés au service de la stratégie de guerre commerciale américaine ?
Alors évidemment, là, il y a plusieurs choses. Alors oui, on peut penser effectivement que quelqu'un comme Donald Trump peut plutôt utiliser la question ouïghour pour faire pression, sur Pékin, dans le cadre peut-être de la guerre commerciale, des choses comme ça. Mais il faut aussi voir qu'aux États-Unis, il y a de véritables défenseurs des droits de l'homme, du droit des minorités, du droit à pratiquer sa religion, des choses comme ça. Donc, ce sont tous ces groupes-là qui se mobilisent aussi, en fait, hein, et qui font que les États-Unis ont peut-être une politique plus agressive, ou en tout cas, où ils prennent réellement des sanctions. Alors, il ne faut pas croire qu'en Europe, il n'y a rien du tout qui se passe, parce qu'en Europe aussi, on a les médias qui, de plus en plus, donc mettent les projecteurs, finalement, sur cette question ouïghour. On a des discussions au niveau du Parlement européen, au niveau de la Commission. Moi, je me souviens être allé informer des représentants de la Commission justement de ce qui se passait au Xinjiang, pour qu'ils puissent ensuite essayer de dialoguer sur ces questions-là avec la Chine dans le cadre des dialogues sur les droits de l'homme et des choses comme ça. Donc il y a des choses qui se passent, mais effectivement c'est lent, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier aussi que la Chine a un poids international qui est extrêmement important. Elle est très présente dans les organisations internationales. On voit bien par exemple que la commission des droits de l'homme, etc., la Chine réussit à mobiliser autour d'elle un grand nombre d'États, puisque lorsque il y a eu ce document qui a été déposé par une vingtaine d'États occidentaux, donc pour critiquer cette politique au Xinjiang, demander aux Nations Unies que voilà, on s'en saisisse, etc., automatiquement la Chine a été capable de mobiliser autour d'elle une cinquantaine d'États qui ont soutenu finalement sa politique. Alors quand vous regardez la liste de ces États, vous avez des régimes autoritaires, vous avez des régimes, les régimes frères de la Chine, vous avez aussi des gens qui sont très endettés par rapport à Pékin, et vous avez aussi un certain nombre d'États qui entendent tirer profit des routes de la soie. Et grâce à tout, comment dirais-je, à toutes ces instruments, Pékin arrive finalement à faire une sorte de contrepoids aux Occidentaux, y compris dans les organisations internationales qui sont chargées donc de justement essayer de se saisir de ces questions de droits de l'homme. Et donc c'est pour les Occidentaux, c'est difficile, d'autant plus que la Chine habille tout ça aussi avec un discours culturaliste, et puis en critiquant le passé des Occidentaux, en traitant, comment dirais-je, ces plaintes occidentales d'ingérence ou de sentiments de nouveau néocolonialistes ou impérialistes, etc. Donc on utilise cette rhétorique-là pour évidemment essayer de saper le discours occidental sur les droits de l'homme, en disant que finalement c'est un instrument politique et que c'est effectivement tourné contre la Chine, ça fait partie d'un discours anti-chinois qui serait plus général, etc. Et ça fonctionne en tout cas en partie, surtout au prix des États du Sud global, en fait.
Alors, ça bouge un peu, vous le disiez quand même, Thierry Kellner. Est-ce que l'Union européenne pourrait avoir une position commune, ferme, vis-à-vis de la Chine ?
Alors, évidemment, ce serait extrêmement intéressant qu'on ait une position commune de l'Union européenne, en tout cas en ce qui concerne la question des droits de l'homme. Alors, ce serait intéressant sur la question du Xinjiang, comme c'est intéressant sur Hong Kong, ou comme ce serait intéressant également sur Taïwan. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a effectivement une nécessité pour l'Union européenne de se saisir beaucoup plus de ces questions, et surtout d'essayer d'avoir une position commune. Alors évidemment, on sait bien qu'au sein de l'Union européenne, arriver à obtenir une position commune, c'est toujours extrêmement compliqué, puisque chaque État a un petit peu ses intérêts particuliers. La Chine cultive aussi ce bilatéralisme, hein. La Chine préfère avoir des relations bilatérales avec les États, parce que ça la place automatiquement dans une position, je dirais, asymétrique, dans laquelle elle est en position de force, tandis que par rapport à l'Union européenne, si l'Union européenne était un bloc uni, évidemment, là, le rapport de force serait différent. Donc oui, ce serait très intéressant que l'Union européenne puisse réussir à avoir une position commune, parce que sur cette question, en tout cas, des Ouïghours, c'est aussi une question de principe, c'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de normes. Donc ce sont quelque part des principes fondamentaux de l'Union européenne et de ce qui fait l'Europe aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, oui, ce serait effectivement très intéressant, mais ça risque d'être extrêmement difficile, parce qu'on sait bien qu'au sein de l'Union européenne, tout le monde n'a pas la même position. Hein.
Et est-ce que la résistance pourrait venir de l'intérieur ? C'est-à-dire, est-ce que Xi Jinping est tout puissant aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une opposition en Chine qui pourrait prendre la défense des Ouïghours et faire évoluer la politique ?
Alors, ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des éléments qui vont en sens contraire. D'abord, il y a une très grande propagande qui était donc mise en place par le pouvoir, donc à destination de sa propre population, qui a consisté donc à montrer que à assimiler donc tous les Ouïghours à des terroristes. Et donc, ce discours-là, je pense, il est accepté par une très grande partie de la population. qui considèrent que ce que fait le pouvoir au Xinjiang est correct, c'est comme ça qu'on va se débarrasser de ces radicaux, etc., qu'on va arriver à surmonter ce problème de terrorisme qui est gonflé par le pouvoir. Et donc là, il y a une forme quand même de soutien à cette politique. Donc ça, c'est un élément qui va dans le sens où ce sera difficile de venir de l'intérieur. Mais on voit bien aussi que, d'un autre côté, à l'intérieur de la Chine, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ce qui explique d'ailleurs les documents donc, qui ont pu être publiés dans la presse occidentale, etc., et qui finalement ont été sortis de Chine par des gens qui avaient accès à ce type de documents. Donc ça veut dire que ça devait être des fonctionnaires, des gens de l'appareil, de l'intérieur du système, qui ne sont pas d'accord avec cette politique. Ils se rendent très bien compte, évidemment, du danger de cette politique, du retour de flamme qui pourrait se produire et qui essaye effectivement, en tout cas, d'avertir le monde, de montrer que Xi Jinping est directement responsable finalement de cette politique. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que Xi Jinping est quand même relativement tout puissant et que ça va être extrêmement compliqué de faire changer cette politique de l'intérieur, surtout s'il n'y a pas de pression internationale en plus. Hein. Donc,
merci.
C'est difficile. Hein.
Merci Thierry Kellner. Ouïghours de Chine, l'effacement programmé d'une minorité. Le grand reportage de cette semaine était signé Alain Lefkovitch. Réalisation Jean-François Braun avec Cindy Le Grumelec à la technique. Merci bien sûr à l'équipe de la documentation de Radio France. Je rappelle que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.